BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Tout pour investir et utiliser au mieux votre plan épargne action, le fameux PEA qui est si attrayant, en tout cas qui vous inspire beaucoup de questions. Et pour y répondre partiellement, au moins Christian Fontaine est de nouveau avec nous. Bonjour cher Christian.
Bonjour à toutes
Rebonjour.
Et à tous.
Vous êtes déjà avec nous pour la partie actu. Vous êtes le directeur délégué de la rédaction du Revenu. Bon, faut-il encore présenter ce PEA qui nous permet à nous, individus et puis ménages, de fabriquer notre petite épargne boursière.
Ah, il faut, oui, bien sûr, il faut en reparler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la bourse progresse depuis le début de l'année, fortement, 6-7% de hausse pour le CAC 40 et pour bien plus pour un certain nombre d'investisseurs et d'investisseuses actifs. Et c'est vrai que dans ces périodes-là, on a tendance à se focusser, si vous me permettez l'expression, sur le choix des valeurs, ce qui peut tout à fait être compréhensible. Et donc, il y a deux sujets qui me sont chers, qu'on aborde rarement. Le premier, c'est les frais. Je vous remercie de ne pas relever. Et le deuxième, c'est la fiscalité, les impôts. Donc, à quoi ça sert, je dirais, de gagner de l'argent en bourse si c'est pour que l'essentiel des gains poches tombe dans les poches de l'administration fiscale, même si quelque part ça nous revient aussi sous forme de service public. Mais il n'empêche que c'est quand même intéressant d'optimiser ces impôts. Et vous le savez, vous le répétez souvent sur votre antenne et Revenu aussi, c'est que en France, la fiscalité est quand même très élevée. Et donc, le conseil, c'est que pour se construire une petite épargne boursière, mais il faut investir via le plan d'épargne en action. Vous avez raison.
En franchise d'impôts, donc. Alors, on a pas mal de questions d'auditeurs, mais on va faire un petit peu de pédagogie quand même. D'abord, le PEA, ça n'est pas non plus le placement parfait.
Non, alors bien sûr, c'est pas le placement parfait, c'est quand même un placement qui permet de ne payer que 17,2% de prélèvements sociaux sur ses gains. Donc ça, c'est quand même pas mal, plus que pas mal. Surtout, l'avantage du PEA, c'est que vous pouvez multiplier les opérations en bourse, les achats vendus, vous pouvez les encaissements de dividendes autant que vous voulez. Vous ne passez pas par la case impôt ou prélèvements sociaux à chaque fois que vous réalisez une opération. C'est uniquement lorsque vous voulez retirer votre argent de cette enveloppe fiscale pour en profiter. Et ça, c'est absolument essentiel. Lorsque vous gérez votre argent sur un compte titre ordinaire, vous vendez un titre, gling, 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 en gain, vous passez par la case impôt. Dans le cadre du PEA, uniquement, donc vous choisissez le moment où vous êtes imposé.
C'est-à-dire que cet argent, ces liquidités, elle reste dans la poche du PEA. C'est ça que vous voulez nous dire.
Voilà, tout à fait.
Excellente transition vers la question de Mathieu qui nous a écrit hier. Il possède un PEA depuis bientôt 5 ans. Il a justement des liquidités dans cette petite poche liquidité de son PEA et il souhaite miser, il souhaite investir sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez quelques conseils à lui apporter, cher Christian ?
Alors, lorsqu'on pense intelligence artificielle, on pense forcément action européenne. Alors là, vous le savez, le plan d'épargne en action, bah, vous avez un avantage fiscal et en contrepartie, en fait, vous ne pouvez investir que dans des titres de sociétés qui ont leur siège dans l'un des 27 pays de l'Union européenne, plus le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande. Donc on était un peu loin des États-Unis. Donc si vous voulez investir en direct dans Nvidia via votre PEA, ce n'est pas possible. Mais il est possible d'investir en actions européennes via des fonds d'investissement. Alors quelle est la magie entre guillemets ? Eh ben c'est très simple, c'est que ce sont des fonds qui respectent les critères d'éligibilité au PEA, donc ils sont bien investis à hauteur de 75% minimum, donc alors en actions par exemple du CAC 40. Et ensuite la performance du portefeuille est échangée contre la performance d'un indice américain, par exemple le Standard & Poor's 500 qui vous savez est exposé à hauteur de 30% en valeur de la tech, donc notamment en valeur de l'intelligence artificielle. Donc, la solution pour votre auditeur, très simple, en fait, et sans doute aussi sur le plan tactique, sur le plan conjoncturel, la solution la plus habile, puisque quand même les valeurs de l'intelligence artificielle sont très chères, ça consiste à diluer un tout petit peu le risque en investissant sur un fonds tech. Donc là, il y a deux options, soit investir via un ETF PEA qui réplique la performance de l'indice Nasdaq. Il existe ce type de produit chez Lyxor. Et puis vous avez aussi chez Amundi, Lyxor et BNP des ETF qui sont éligibles au PEA et qui répliquent l'indice Standard & Poor's 500. Personnellement, dans la conjoncture actuelle, compte tenu des niveaux des marchés, je préférerais investir sur un ETF qui réplique donc alors le Standard & Poor's 500. Donc comme ça, votre auditeur sera exposé à la thématique de l'intelligence artificielle, mais pas que.
Voilà, ces ETF qui permettent de, d'investir sur le S&P 500. On a pas mal de questions d'auditeurs très d'actualité, notamment celle de Michel, un de nos Michel, Michel G, qu'on salue. Il nous écrit, il a écouté l'émission depuis le début, avec l'augmentation du déficit public, n'y a-t-il pas un risque de voir la flat tax arriver sur le PEA ?
Alors, j'y crois pas. Mais ça ne veut pas dire forcément que l'ensemble des prélèvements sur le PEA ne va pas augmenter. En fait, la flat tax, donc, c'est l'impôt le PFU, enfin le prélèvement forfaitaire unique, à 30% auquel sont soumis peu ou prou tous les revenus non colorés et plus-value de vos placements, sauf au sein de l'enveloppe PEA. Non, par contre, ce qui peut se passer au sein de l'enveloppe PEA, on en parle peu en ce moment, c'est les prélèvements sociaux, les fameux 17,2% au sein du PEA. Ça pèse lourd et ça, rien ne garantit que ce taux, hein, vous savez, historiquement, c'était la fameuse CSG, donc on l'a créé au début des années 90 de mémoire, ça devait être 0,5 ou 1% et puis le taux n'a pas cessé d'augmenter. Aujourd'hui, donc, ces prélèvements sociaux, c'est l'addition de différents prélèvements. Ce taux de 17,2 pourrait éventuellement augmenter. Il n'empêche que même s'il augmentait, il n'y a eu aucune information dans ce sens. Ouais. C'est purement de la conjecture. Le gouvernement reste sur sa politique, donc alors de ne pas augmenter les impôts. Ce qui ne veut pas dire que certaines niches fiscales ne vont pas disparaître. Donc alors, ce qui ne veut pas dire que certains avantages fiscaux vont être reniés. Dans le cadre du PEA, on est vraiment au cœur de la machine. La volonté, donc alors, d'Emmanuel Macron de booster, donc alors, l'investissement dans l'épargne productive en bourse. Donc ça serait quand même très étonnant que la fiscalité sur tous les placements qui avaient été allégés au 1er janvier 2018, puisque avant, en fin de compte, les revenus du capital étaient taxés comme le travail, et depuis le 1er janvier 2018, ils sont taxés au taux de la flat tax. Donc ça serait revenir quand même sur une réforme fiscale majeure donc du premier quinquennat Macron. Donc j'y crois pas trop, mais éventuellement toujours une hausse des prélèvements sociaux possible, notamment pour le PEA.
Voilà, loin de nous hein, de colporter des rumeurs. Bon, c'est une question d'auditeur à laquelle on répond. Voilà, pour l'instant, ça n'est pas au programme. Bon, il y a quand même quelques conseils que vous pouvez donner, fort de votre casquette du revenu, pour ceux et celles qui ont déjà un PEA.
Alors, pour ceux et celles qui ont déjà un PEA, en fait, c'est de mondialiser le PEA. Vous savez, le revenu, on va souvent chez les abonnés, chez les lecteurs, et on met à plat un peu l'ensemble de leur situation patrimoniale, et on regarde notamment ligne par ligne leur PEA. Et que constate-t-on? C'est qu'il est très souvent franco-français. Ça, c'est pas, je dirais, un biais national. C'est pour les Anglais sont majoritairement investis dans des titres britanniques, les Allemands dans les titres allemands, les Américains dans les titres américains. Ce qui est une certaine logique. On investit dans ce qu'on connaît parce qu'on pense que ce qu'on connaît va davantage progresser. Malheureux que ce qui est coté à l'étranger. Voilà. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et depuis une dizaine d'années, ça vous a pas échappé. Effectivement, les actions américaines donc, affichent des performances bien supérieures aux actions françaises. Donc, il s'agit pas de faire du French bashing, mais on peut donc leur aimer, donc leur soutenir nos champions nationaux tout en souvent à l'international. Et donc, le conseil pour ceux et celles qui ont un PEA, c'est de mondialiser leur PEA. Donc, en mondialiser déjà, je dirais, en investissant dans des titres donc cotés en Allemagne, à Bruxelles, en Italie, en Espagne. Et puis, pourquoi pas, donc, alors, pour les portefeuilles relativement importants, oser donc, alors, des fonds un petit peu complexes donc, qui vont échanger la performance d'un portefeuille éligible au PEA donc, alors, et investi en actions européennes contre la performance d'un indice américain. Donc le conseil pour ceux et celles qui ont un PEA, mondialisez votre PEA.
Mondialisez-le. Une question de Guy qui nous suit et qu'on salue, qui nous évoque une situation suite à un décès. La banque du défunt me valorise les titres au jour de mon ordre de transfert. Est-ce que c'est correct? Parce que c'est vrai, souvent on pense que la valorisation, eh bien, elle s'apprécie soit au jour du décès, soit une moyenne sur 30 jours.
Alors, ça dépend en fait de quoi parle votre auditeur. En fait, pour le calcul des droits de succession, effectivement, la base imposable pour le PEA, les titres qui sont dans le PEA, ça correspond à la valeur du titre le jour du décès ou, si c'est plus intéressant pour les héritiers, à la moyenne donc, alors, des cours des 30 derniers jours. Voilà, oui. Ça, il a raison là-dessus.
Précédant le décès. Ouais.
Voilà, précédant le décès. Ça, il a raison. Après ça, le transfert, je dirais, des titres, ben, il s'effectue donc au cours des titres le jour du transfert. Attention, hein, il ne faut pas confondre la valeur des titres le jour du transfert avec la valeur des titres qui sert de base donc pour le calcul des droits de succession. Hein. Vous pouvez très très bien payer des droits de succession sur 100 parce que les titres ils valent 100 le jour du décès. Et puis le jour du transfert, souvent parfois 6 mois après, les titres qui valaient 100 le jour du décès peuvent valoir 80 ou peuvent valoir 120. Et donc en plus, même une petite subtilité fiscale à savoir, c'est que si les titres ont progressé entre le jour du décès et le jour du transfert, eh ben, les héritiers vont être amenés à payer des droits de la taxe sur la plus-value. À l'inverse, donc alors si les valeurs des titres le jour du transfert est inférieure à la valeur des titres le jour du décès, il peut y avoir une moins-value utilisable sur le plan fiscal. Voilà, ça dépend de quoi, on parle. Est-ce qu'on parle sous le plan des droits de succession ou est-ce qu'on parle sur le plan du prix donc alors des titres le jour du transfert?
Voilà, précision pour notre auditeur. Un autre auditeur nous demande comment calculer les prélèvements fiscaux en cas de sortie partielle du PEA. On a le sentiment que c'est très opaque.
Alors, c'est pour un PEA de plus de 5 ans, il n'y a pas de prélèvements fiscaux, c'est que des prélèvements sociaux. Alors oui, c'est vrai que c'est très compliqué. La question type qu'on a aussi très souvent revenue, c'est j'ai vendu un titre en perte et dans la foulée de la cession de ce titre en perte, j'effectue un retrait. Et ma banque me prélève des prélèvements sociaux. Y a-t-il une erreur de calcul? Alors la plupart du temps, il n'y a pas d'erreur de calcul. En fait, c'est parce qu'il faut bien comprendre comment sont calculés ces prélèvements sociaux. En fait, lorsque vous effectuez un retrait d'un PEA, vous retirez à la fois un tout petit peu de capital, le montant de vos versements, plus une quote-part de vos gains. Et les prélèvements sociaux ne sont calculés que sur la part des gains que vous retirez. Donc tout à l'heure, j'ai parlé du 17,2% de prélèvements sociaux, ce qui est exact, c'est le taux qui s'applique aux gains réalisés sur un PEA depuis le 1er janvier 2018. Sauf que ce taux de 17,2% ne s'applique pas sur le montant total de votre retrait, mais uniquement sur la part de gains. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais la bonne nouvelle à retenir, c'est qu'il en résulte donc alors un prélèvement inférieur au 17,2. Par contre, c'est vrai que c'est excessivement, les modalités de taxation sont très complexes. De mémoire, ces modalités de taxation, ça tient sur 4 pages de formules mathématiques, donc c'est d'une complexité inouïe. Voilà. Donc c'est très difficile de le recalculer.
Christian, un conseil pour ceux et celles qui nous écoutent, qui n'ont pas ou pas encore de PEA.
Non mais ça, je pense que vous pouvez faire le conseil à ma place. C'est bien sûr d'ouvrir un PEA. Alors, la question, c'est où en fait, hein, on n'ouvre pas un PEA dans son supermarché, on n'achète pas donc alors des titres, non, on n'investit pas dans des titres dans son supermarché. Il faut passer par l'intermédiaire d'un établissement financier. Vous pouvez ouvrir donc votre PEA auprès donc de votre banque à réseau. Le conseil du revenu, c'est plutôt de passer par un établissement 100% en ligne. Mais pourquoi? Parce que les frais. Vous avez raison. Toutes les études qui ont été menées là-dessus montrent que les frais prélevés sont 2 à 3 fois inférieurs, notamment les frais de courtage. Lorsque vous achetez ou vendez un titre, vous passez par la case frais. Et l'avantage des établissements 100% en ligne, d'ailleurs souvent filiales d'un grand réseau bancaire, les frais de courtage sont limités à 0,1, 0,15, 0,20% sur chaque opération d'achat et de vente. Donc, ouvrir un PEA auprès d'une banque 100% en ligne reste un point clé, le choix du package tarifaire. Hein. Vous savez, c'est un peu comme un abonnement de téléphonie mobile ou un abonnement Internet.
La subscription, il ne faut pas se tromper sur les options.
Voilà, il ne faut pas se tromper sur le package. Bon, le package, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des forfaits tarifaires qui conviennent bien aux débutants, pour des petits ordres. Il y a des forfaits tarifaires qui conviennent bien aux investisseurs, je dirais, déjà plus aisés, pour des montants plus important. Il y a des packages tarifaires qui sont adaptés si vous faites quelques ordres par mois, d'autres si vous faites quelques ordres par jour. Donc il faut cette capacité en fait à vous projeter dans l'avenir. Il faut anticiper quel sera le montant moyen de vos ordres d'ici 1 ou 2 ans, l'encours moyen de votre PEA. Est-ce que vous allez travailler des titres en direct, des titres français, des titres européens? Est-ce que vous allez investir donc par l'intermédiaire d'ETF, donc alors de fonds d'investissement? C'est autant de questions qui conviennent de se poser. C'est pas si simple, mais parce que ça va vous permettre en fait d'optimiser votre tarification, sachant bien sûr que lorsque vous ne ferez pas un ordre qui sera un peu dans le cœur de cible du package donc que vous avez souscrit, eh ben vous allez être pénalisé. Donc voilà, ça c'est un point très important, mais pas de panique. Hein, de toute façon, vous pourrez aussi changer de forfait tarifaire, mais simplement cela peut entraîner des coûts.
Voilà, quelques bons conseils pour mieux gérer ou mieux envisager votre plan d'épargne action. Merci Christian Fontaine, directeur délégué de la rédaction du Revenu. Merci à nos auditeurs et auditrices, Mathieu, Guy, Michel et Jérémy qui vient de nous écrire et qui nous dit qu'il faudrait prendre modèle sur ce qu'on fait au Canada avec le CELI, le compte épargne libre d'impôt. Vous connaissez Christian ?
Alors, je ne connais pas ça. Je sais que la fiscalité au Canada est particulièrement légère, notamment, il me semble qu'il n'y a pas de droit de donation ni de droit de succession. Par contre, je ne connaissais pas cette particularité pour la taxation des titres.
Merci, Jérémy. On va regarder de plus près ce CELI et voir si il est si intéressant.